Bonjour. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Salem Chaka. Salem est rattaché au LAMSAD, à l'Université Paris-Dauphine, où il a réalisé son doctorat sous la direction de Vincent Mousseau. Un doctorat qui portait sur l'utilisation combinée des systèmes d'information géographique et de l'analyse multicritère.
Voilà.
Un champ de recherche que je connais bien. Alors, on a eu l'occasion d'échanger depuis de nombreuses années, en fait. Et Salem a... Donc, il fait partie des quelques rares chercheurs qui mettent les pieds dans les deux domaines, là. C'est-à-dire qu'il publie autant dans des revues géomatiques que dans des revues d'analyse multicritère ou d'aide à la décision. Ensuite, il a effectué un post-doc dont il va nous parler tout à l'heure concernant l'évaluation des risques nucléaires. Et puis, maintenant, il va nous parler aussi d'une transposition de cette réflexion sur les risques nucléaires vers la question de l'adaptation au changement climatique. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ce long voyage, là, parce que Salem est chercheur invité chez nous pour une semaine. Il travaille aussi avec Claude et Geneviève Gay sur la problématique des classements des plantes envahissantes.
Donc, voilà. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Alors, donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est deux parties. Dans la première partie, donc, je vais parler surtout sur le problème prime dans lequel j'ai travaillé, qui porte sur le problème de sécurité nucléaire et puis sur le projet des changements climatiques. En fait, en étudiant les deux projets, donc, il y a beaucoup de ressemblances, puisque dans l'un et dans l'autre, l'objectif est de calculer un risque global. Bon, dans les cas de projet prime, donc, le risque, donc, on va associer le risque global pour chaque commune. Et dans les projets de changement climatique, c'est à peu près la même chose. Ça peut être quartier, zone ou autre chose. Alors, le point de départ, donc, c'est le projet prime. Alors, le projet prime, pour dire, c'est un projet de recherche sur les indicateurs de la sensibilité radio-écologique et les méthodes multicritères appliquées à l'environnement d'un territoire industriel. Alors, l'objectif, en fait, était de développer une méthodologie multicritère qui prend en compte à la fois l'avis des experts, des gens de l'aide à la décision et surtout la population locale. Donc, le projet a été, donc, le responsable des projets dans lesquels j'ai travaillé, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Donc, c'est un institut de reconnaissance mondiale. Et puis, donc, le projet a été supporté par l'Agence Provence Alpes-Côte d'Azur dans le cadre des projets pôle et compétitivité risque. Et par le ministère de l'Environnement dans le cadre du programme Risques, Décisions et Territoires. Alors, les zones d'étude, donc, elles se situent dans le sud de la France. Elles couvrent donc trois départements, Drôme, l'Ardèche, puis Bouches-du-Rhône. Donc, elle inclut également le fleuve du Rhône. Il y a également trois sites nucléaires. Alors, dans les cadres, donc, et là c'est la mer, donc il y en a trois communes qui sont directement sur la mer. Donc c'est une zone très homogène qui permet de prendre en compte tous les aspects, donc à la fois des zones industrielles, des zones rurales, des zones touristiques, et aussi donc le fleuve et la mer. Alors, pour les types d'accidents, donc c'est un rejet dans l'atmosphère, donc on a pris comme donc, source de pollution, donc c'est le site 1 du tritastin, mais également la méthodologie doit prendre en compte des pollutions que peuvent prévenir de deux autres sites, qui sont le Créas et puis la Marcoune. Voilà, donc ça c'est concernant la zone de titre. Alors maintenant, les gens qui sont intervenus dans le projet, donc il y en a, comme je viens de le dire, donc il y en a d'abord les différents experts du risque qui sont les RSN. Donc, l'INRIS, il y a également la RIVA, EDF et l'AMSAD, auquel j'appartiens. Il y a les autorités de sûreté nucléaire, donc qui chevronnent tout en France. Et puis, il y en a les représentants de l'autorité locale, de celle qui préfère de la Drôme, ainsi de suite. Puis, et là, il y a ce qu'on appelle la communauté de CODIRPA. Donc, c'est une communauté qui est chargée par le ministère d'établir une doctrine générale pour tout ce qui est gestion de. Le risque nucléaire. Et puis, il y a surtout les gens, la population locale, qui sont directement menacés par le problème par l'accident nucléaire. Alors, dans un accident nucléaire, on distingue en fait trois phases. Il y a donc la phase urgente, donc elle couvre la période pré-risque, donc lorsqu'il y a un soupçon qu'un risque va se produire. Donc c'est une période très courte. Et puis il y a la phase donc post-accidentelle. Donc celle-là commence lorsque l'installation qui a originé le risque a été sécurisée. Donc l'objectif de cette deuxième phase est de faire un diagnostic général afin d'établir quelles sont les mesures immédiates à prendre en compte. Elle peut durer entre plusieurs mois ou plusieurs années, au maximum 2 ans. Et puis il y en a la phase post-accidentelle, donc c'est pour le long terme. Alors le projet PRIME, donc il concerne essentiellement cette phase, mais au même temps il doit prendre en compte donc la partie urgente, la phase urgente, et également doit préparer pour la partie long terme. Alors maintenant, la démarche qu'on a suivie. Donc d'abord, on a commencé par un diagnostic général afin d'établir les différents enjeux. Puis, donc, pour chaque enjeu, on doit définir un certain nombre de critères. Et puis, on établit ce qu'on appelle donc l'évaluation des différentes communes par rapport aux différents critères. Donc là, on produit ce qu'on appelle la tableau des performances. Et à la fin, on va appliquer la classification multicritère. Dans notre cas, on a appliqué la méthode ELECTRE-TRIM. Donc, je vais présenter rapidement chaque étape. Alors, concernant les enjeux et les critères, donc, il y en a trois grands enjeux. Donc, il y a les conséquences radio-écologiques, il y en a les conséquences économiques, puis il y en a la population. Donc, l'objectif, c'est de combiner donc, ces trois conséquences pour définir un décret du risque global pour une commune. Alors, dans les conséquences radio-écologiques, on a pris en compte juste milieu, l'hépatie, les eaux de Naples, le fleuve, le Rhône, puis les littorales, puis le milieu agricole et le milieu naturel et forestier. Donc, le milieu agricole, c'est le plus important parce que vraiment, c'est une région agricole. Donc, concernant la partie économique, donc on a surtout il y a le tourisme qui a une grande importance dans le sud de la France, et puis il y en a l'impact sur l'emploi, sur les fonciers, sur les entreprises. Également, donc, au départ, on a pris ce qu'on appelle la réaction de la population, surtout vis-à-vis de ce qu'on appelle résilience, mais vers la fin du projet, on a abandonné cette dimension parce que c'était très difficile de mesurer ça, donc on a considéré seulement les conséquences radio-écologiques et les conséquences économiques.
C'est même.
Oui.
Et pourquoi il n'y a pas l'impact sur la santé, par exemple?
C'était. Alors. Tiens, on n'a pas pris ça en compte. Oui. Bon, c'était en fait tout ce qui est population, tout ce qui est. Ça doit inclure la population, la santé et tout ça, mais c'était un peu difficile de calculer ça. Donc, on n'a pas pris ça en compte. Dans la première étape du projet, on a mentionné tous ces critères, tous ces enjeux, mais enfin, on a focalisé surtout sur la partie agricole. Et là, on a identifié 16 critères. Il y en a plus ou moins 3 pour les autres. Et surtout, la partie tourisme. Donc, les gros morceaux, ce sont le milieu agricole et le milieu, l'impact sur le tourisme. Parce qu'il y en a des gros projets en parallèle. Donc, il y en a plusieurs personnes qui travaillent sur le milieu agricole, plusieurs personnes qui travaillent sur l'impact sur le tourisme. Alors, concernant la partie population, donc c'était en fait un médecin et qui traitait le problème. Mais donc, on a fait plusieurs réunions, mais à la fin, elle a dit que c'est très compliqué de mesurer ça. Et on a laissé tomber à la fin. Parce qu'il y avait beaucoup de questions, il n'y a pas une règle qu'on peut appliquer. Donc, on a décidé de laisser tomber pour le moment. Mais normalement, en fait, il y en a une autre phase, je pense, dans le projet. Et c'était surtout pour cette partie qui est très compliquée à modéliser.
D'accord.
Bon, une fois on a identifié les différents critères, donc pour chaque milieu, là, on va associer donc plusieurs critères. Et après, on doit établir ce qu'on appelle les tableaux des performances. Bon, schématiquement, c'est-à-dire pour chaque commune, donc on doit donner la valeur de la commune sur chaque critère. Alors, on a utilisé des différentes échelles. Donc, l'échelle générale donc, est composée de 7 niveaux. 0 pour une situation normale, jusqu'au 5 pour dire important et durable, c'est-à-dire plus que de 2 ans. Alors, là, c'est la signification sur l'environnement, là, sur la signification sur les économies de temps. Là, donc, il n'y a pas vraiment les mêmes niveaux. Donc, puisque ce sont des critères hétérogènes, donc on va avoir plusieurs échelles qui sont différentes. Donc, il y en a même des échelles avec juste seulement 3 niveaux. Il y en a d'autres avec plus que 7. Mais à la fin, on doit établir un risque global de 6 niveaux. Donc, c'est une échelle internationale. Alors, comment on va définir les échelles? C'est en fait en définissant le frontière entre les différents niveaux. Donc, ça va être un peu simple pour les côtés économiques, donc, puisque c'est monétaire, mais ça va être un peu plus difficile pour tout ce qui est signification, donc, pour tout ce qui est environnement. Donc, généralement, on adopte les normes qui sont prédéfinies, tout ça, mais ce n'est pas toujours très bien défini, les normes. Donc. En plus, on a différentes normes et tout ça, donc ce n'était pas évident de choisir les normes. Bon, côté logiciel, donc, on peut changer les valeurs sans problème. Donc, ce sont des paramètres qui ont été implémentés, et donc on peut changer l'échelle et ça marche toujours, le logiciel. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on a fait pour calculer l'indice de risque pour une commune. Bon. Alors là, donc, d'abord on définit un scénario, donc c'est un accident. Et puis on va calculer le modèle des radioécologies. Donc, et pour chaque modèle, pour chaque radionucléide, on va définir ce qu'on appelle l'indice de sensibilité. Et pour par millier, donc une part radionucléide. Donc on a étudié 3 radionucléides, dont les cesium sont 37. Donc et pour chaque radionucléide, on doit définir la sensibilité, le risque, donc pour les différents milliers, c'est-à-dire pour les différents critères. Donc, et une fois on a établi tout ça, on va appliquer la méthode électrique pour calculer l'indice global. Donc, et après, on va générer la carte finale. Alors, les règles là, donc, ça peut être deux règles simples, type if alors, si alors, ou bien ça peut être même des modèles multicritères. C'était le cas, par exemple, pour les milieux agricoles, puisqu'il y a plein de critères, on était obligé d'utiliser donc, l'analyse multicritère à des niveaux, là et puis là. Je vais détailler un peu plus le schéma pour le calcul de risque. Je ne sais pas si c'est lisible ou non. Donc là, par exemple, c'est les radionucléides. Donc on prend les dépôts. Et puis on a les différents miniers. Là, par exemple, les miniers agricoles. Donc là, pour chaque production, il y en a 16. Donc on applique la règle pour calculer l'indice de sensibilité pour une production agricole. Et puis on a la base de données, c'est-à-dire qui donne les productions agricoles pour les différentes communes, et puis l'indice de sensibilité de chaque. Bon, non, c'est la redondance là. Et après, donc, on aura là 16 indices avec. On aura 16 indices avec la radiation. On fait l'agrégation multicritère et on obtient l'indice de sensibilité pour les milieux agricoles. Alors, pour les restes, donc, il y a des règles qui sont simples, de type if alors. Donc, pour faire les calculs, différents outils ont été utilisés pour faire les calculs. Et à la fin, donc, on va obtenir donc, un indice de sensibilité pour chaque millier. Et on va appliquer de nouveau l'analyse multicritère pour calculer l'indice global. Donc, là, c'est pour un seul radionucléide. Donc on doit faire ça pour les différents radionucléides. Donc, je pense. Alors, là, il y a un problème pour l'analyse multicritère. Il y a un grand problème, puisque pour pouvoir appliquer une méthode multicritère, il faut définir un certain nombre de paramètres de préférence. Et ce n'est pas évident, surtout pour les gens qui ne connaissent pas les méthodes multicritères. Donc, l'idée qu'on a utilisée, c'est ce qu'on appelle la procédure, c'est une idée qu'on appelle l'approche agrégation-désagrégation. L'idée est la suivante, on demande donc aux décideurs de choisir un certain nombre de communes, donc ils doivent être très représentatives. Après, à partir de cette de cet ensemble de communes, hein, on va appliquer, donc, on va construire un programme linéaire dont la résolution permet de générer les paramètres des préférences, tels que par exemple le poids des critères. Alors, là, on obtient une première classification, et après, on prend les paramètres des préférences obtenus, et maintenant, on va appliquer la méthode elle-même. Et à la fin, on va comparer le résultat donné par le décideur et par la méthode. Donc, on peut refaire donc le même approche plusieurs fois jusqu'à arriver donc à une classification donnée par telle qu'il dit, jusqu'à pour aboutir à deux classifications très proches, pardon, des classifications très proches, la classification donnée par le groupe du décideur et celle donnée par la méthode. D'accord. Donc, une fois on a défini donc et validé les différents paramètres, donc on va appliquer la méthode à toutes les communes pour avoir la carte finale. Donc maintenant je vais vous montrer donc le résultat. Donc pour l'application, pour la carte que je vais montrer de suite, donc on a appris les scénarios suivants. Donc il y en a 10 gigas d'écrans qui ont été donc rejetés le 1er juillet par exemple pendant 24 heures. Et après, donc, par exemple, la méthode était le bias avec un vent très faible, puisqu'il y en a deux scénarios du vent. Donc, il y en a deux faisons faibles ou bien deux faisons normales, c'est-à-dire plus fortes. Et puis, on est le 10 juillet, donc là, on est le premier, après 10 jours. Donc tous les dépôts ont été calculés. Les experts ont évalué donc, les vulnérabilités et le risque pour les différents milliers. Maintenant, donc, on va utiliser le logiciel. Donc la méthode, autrement dit, donc la méthode Electratree. Alors ce qu'on a obtenu, donc c'est cette carte-là. Alors l'accident se trouve dans les sites de Trixton qui se trouve là. Là donc c'est l'échelle de l'échelle de gravité. Donc là, donc cette couleur très claire, donc c'est une situation normale. Donc la gravité il augmente. En descendant vers les bas. Alors, on regarde bien donc les zones, les communes qui sont très proches de l'incident, de la zone de l'incident sont des niveaux donc importants et les niveaux de risque donc diminuent en s'éloignant de zone de l'installation où a eu l'accident. Bon, ça c'est voilà. Bon, maintenant je suis passé donc à j'ai une question avant de passer de pour ton projet.
Non, mais j'avais une question. Il y a d'autres personnes qui ont une question.
Peut-être ou après.
Oui, c'est ça.
En fait, justement, par rapport à cette carte, est-ce que le fait, les différences justement de risque, est-ce que sont dues principalement à la dose de radionucléides qui diffère peut-être entre les communautés, vraiment, ou est-ce que c'est dû vraiment à la nature des, par exemple, beaucoup plus de milieux agricoles ou
les deux à la fois.
Les deux à la fois.
Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont... Parce que si je prends par exemple la salade, elle est très sensible donc, au dépôt de radionucléides. Si je prends par exemple une zone urbaine, donc des zones plus ou moins sensibles, parce que le fait d'un radionucléide sur la salade est immédiat. Alors que sur d'autres, par exemple, sur une forêt, donc il doit, doit être absorbé par la terre et puis il remonte vers les fruits, tout ça. D'accord. Et les experts, ils mesurent à la fois donc, à la surface et puis, je sais pas, un mètre, je pense, sous terre et tout ça. Et en plus, ça, il y en a également le vent, puisque le vent, si c'était un vent normal, donc c'est à peu près uniforme. Si c'était, par exemple, normalement, le vent, il souffle dans ces sens-là. Et si on change de scénario, on va avoir un truc comme ça, qui sont par les bains. Et là, il y en a, donc les risques sont beaucoup plus faibles, mais ils augmentent vers les bas.
D'accord, parce que ça, on dirait la carte, on dirait vraiment que c'est aussi une question de proximité, puis justement, direction du nuage.
Il y a la proximité, ben, ça se tire, puis il y en a surtout l'essence du vent qui peut être homogène ou bien du nord vers l'ouest.
Merci. Claude, en continuité, justement, c'est qu'on. C'est très naïf, là, peut-être ce que je vais dire, mais. On semble avoir alimenté le système avec une grande diversité de critères et ainsi de suite. Et malgré tout, au seul examen superficiel, j'en conviens, de cette carte-là, tous ces critères-là semblent être noyés, somme toute, dans un modèle assez simple de dissémination climatique et de proximité. Autrement dit, on fait un rayon, puis... Alors, ça semble, ça a du sens, mais je me demande, à la limite, on aurait pu faire un rayon, puis... Mais c'est certainement plus complexe que le sol.
Sûrement, puisque nous, on a vraiment pris deux scénarios pour le vent, puisqu'il y a une grande importance, très simple, donc normale, diffusion uniforme ou bien un peu normale. Mais nous, si on prend en compte ces paramètres dans les différentes communes, ça va changer beaucoup de choses. Donc on aura par exemple un peu partout des zones qui sont à risque, il y en a d'autres moins risquées. Puis surtout, il y a le fleuve, donc il y en a le risque qui peut arriver jusqu'à la mer, donc par diffusion et tout ça. Et on n'a pas pris en compte tous ces paramètres, en fait. Donc, c'était juste un calcul simple. Parce que, quand même, ça prend du temps pour faire les calculs.
Mais j'imagine que dans votre modèle, vous pouvez faire varier les oui. caractéristiques de l'accident
oui.
et obtenir un résultat rapidement.
Oui. Ben, là, c'était juste un exemple avec les données. Donc, c'est pas vraiment. Les données, les dépôts, ce sont des valeurs réelles. Mais tout ce qui est la production et tout ça, ce sont des données. Donc. Bon, elle a été faite par des experts, mais ce n'est pas des données réelles, puisqu'on ne peut pas aller dans toutes les communes pour calculer, pour chercher les informations et tout ça. Et en plus de ça, c'est le risque global, mais là, il y en a, par exemple, on peut avoir les risques économiques, il y en a radio-écologiques, donc pour les différents critères, et pour chaque milieu, on peut avoir une carte indépendante. Et là, ça va être très différent, puisqu'il y a là, par exemple, il y a des zones qui sont agricoles, il y en a d'autres qui sont très urbanisées, il y en a d'autres moins urbanisées, et ça change beaucoup de choses.
C'est vrai que ce qui nous étonne un peu, c'est d'avoir une carte qui est aussi homogène. C'est-à-dire, on se serait attendu à voir certaines communes, par exemple, avec un risque important et durable, pas seulement au centre, mais un peu plus dispersé. Ça, je pense que. Pour nous, là, mais peut-être que ça paraît mieux si on décline en vulnérabilité économique, ou c'est ça?
Oui.
Là, quand tu fais la synthèse globale de tous les risques, ça a tendance à un peu homogénéiser.
Voilà. Mais surtout, le scénario adopté. Donc, puisque là, c'est une diffusion.
C'est le vent faible, voilà. C'est ça?
Donc, comment on calcule, puisque c'est pour calculer, par exemple, les dépôts, comment il y a une matrice à distance égale dans toutes les communes, et on va à chaque point, on va prendre la valeur. Alors, s'il y a un vent, cette valeur va changer. D'accord? Donc, là, par exemple, normalement, les points de dépôt qui sont dans la même commune, donc ils doivent normalement être très proches. Mais si on change, par exemple, le vent, ça va être là, par exemple, on va trouver, je sais pas, 10, là, on va, 10 après, on va trouver une valeur plus importante et tout ça.
J'aurais aussi une question, c'est l'échelle qui est là, par exemple.
Oui.
Qu'est-ce qu'on en fait en termes de décision? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut agir d'abord où il y a un portant durable, ou agir différemment selon la catégorie? Alors, comment ça s'utilise?
En fait, je peux vous montrer un petit l'autre échelle que j'ai présentée. Là, par exemple, ce sont les actions qui peuvent être prises. Okay. Il s'agit d'un accident important et durable, donc il y en a un. Action de remédiation, donc il est dit dans l'espace et du temps. Donc s'il s'agit d'une situation normale, normalement on ne fait rien du tout.
Ah, ok.
Voilà.
Donc ça, les échelles, vous les avez prédéfinies avant
Oui, bien sûr.
Et quand tu as résulté à l'analyse critère, tu peux tout de suite dire, bon, si c'est ce niveau-là, ça veut dire que c'est ce type d'action qui devrait être
voilà.
prise dans ce
voilà.
niveau-là.
Donc il y a une correspondance directe entre cette sémantique-là et si les décisions. Mais là, on peut ajouter d'autres actions, donc ce n'est pas définitif. Mais l'objectif, ce n'est pas de définir les actions qu'on doit prendre en compte, les mesures nécessaires, mais plutôt de générer une écart de risque. Donc. Mm-hmm. Mais les gens qui vont prendre les décisions, donc sont eux qui vont. C'est à eux de définir quelles sont les actions à prendre en compte.
Donc il y a eu un gros travail de définition des échelles.
Ah oui, là, c'était vraiment. À un moment, on a enlevé même les euros. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui ont mis 7. Mm-hmm. Mais la décision finale est de prendre 6. Bon, parce que c'est une échelle, pardon. Okay. C'est une échelle internationale. Et puis même le nom des différents, les libellés des différents niveaux, On a beaucoup discuté sur ça.
Ok.
Puisqu'au départ, je pense que c'était grave, quelque chose comme ça. Mais il y a une personne qui a dit, si jamais on va afficher ça, on va dire grave et tout ça, la population va avoir peur. Donc, des préférences, on va dire important, plus ou moins important, quelque chose comme ça. Donc.
Et puis, c'est les mêmes échelles que vous avez utilisées au moment où vous avez fait l'exercice d'inférence, là. C'est-à-dire, tu sais, quand tu peux peut-être montrer l'autre schéma, là, celui sur l'inférence.
Ouais. Là.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les experts là, qui sont représentés en vert,
oui.
Eux, ils prenaient position sur certaines situations en se référant à ces échelles-là.
Voilà, on prend donc la commune, oui. Et les valeurs sur les différents critères, et on donne à chaque décideur, voilà, donc sur cette commune, on a les dépôts suivants, sur les différents milliers. Okay. Donc où vous pouvez placer, donc où vous voulez placer cette classe, par exemple. Ils peuvent donner donc une seule classe, ils disent par exemple les graves. Il peut ne pas être serré dans l'entrée grave et long terme, quelque chose comme ça, mais il peut donner plusieurs valeurs possibles. Mais normalement, généralement, c'est un intervalle.
On le définit des intervalles.
Des intervalles, pas vraiment. Les experts peuvent donner directement une valeur, mais la population locale dit OK, donc ils donnent un intervalle.
Ah, okay.
Mais la classification dépend beaucoup de l'activité de chacun d'individu. Donc, si quelqu'un qui travaille dans le domaine du tourisme, il trouve par exemple l'humidité tourisme est affectée par une valeur, par exemple, les graves, il va tout de suite donner une valeur importante. Mm-hmm. Voilà, donc ça dépend beaucoup, beaucoup de l'activité de chaque personne impliquée dans le problème.
J'ai deux questions. Dans le cadre de ce problème de risque nucléaire, qu'est-ce qui a guidé le choix de la méthode électrique
Alors,
contrairement à un autre.
Le choix, donc, d'abord pour dire, puisque donc, c'est l'AMSAT, qui dit l'AMSAT dit les méthodes électriques, donc le choix était presque immédiat.
Ouais.
Mais surtout, puisque, alors, si on regarde un peu les échelles, sont presque toutes de nature ordinale. D'accord. Donc, dans ce cas, on a obligé d'utiliser une méthode de type surclassement qui accepte les données ordinales. On ne peut pas, par exemple, utiliser la somme. La somme pondrée, ça ne marche pas, ou toute autre méthode de type qui utilise la règle de la somme pondrée.
Dans ce cas de problème nucléaire, c'est cette méthode-là qui est adoptée, qui est la mieux adoptée.
C'est pas le mieux, mais on a choisi ça pour différentes raisons. Donc, la principale, c'est que les données sont des types ordinaires, donc on est obligé d'utiliser une méthode de surclassement. Et après, parmi les différentes méthodes de surclassement, il y en a plein, d'accord, et autres. Nous, on a adopté l'électrique, puisqu'il s'est développé au LAMSAT, une méthode qu'on. Vincent et moi, on connaît bien la méthode et tout ça, donc c'était, l'application est simple, tout ça.
Alors, la deuxième question, actuellement, on assiste à un problème nucléaire au Japon, actuellement.
Oui.
Déjà, il y a des installations dans les installations.
Je ne suis pas expert dans le nucléaire, pour vous dire. Hein?
Mais on prévoit toujours quand même un dispositif de sécurité, d'intervention en cas de risque. Alors, est-ce que dans cette modélisation que vous avez fait, est-ce que vous êtes mis dans des conditions de risque extrêmes ou bien vous avez tenu compte de la rapidité d'intervention ou bien le dispositif de sécurité en cas d'accident?
Alors, L'outil, il y en a des actions qui sont immédiates. Là, par exemple, au Japon, on essaie d'arroser, donc, par exemple, les centrales et tout ça. Ce sont des mesures donc, urgentes, il faut le prendre tout de suite. Donc. Mais là, le projet, c'est plutôt post-accident, c'est-à-dire une fois l'accident terminé, une fois l'installation est sécurisée, et là, donc, on va essayer de. on intervient. Mais pas dans la partie urgente, le risque. Donc. Le risque lui-même, l'accident lui-même. C'est juste une fois l'accident est terminé. D'accord? Et après, donc, il intervient à l'analyse, tout ça.
Alors, tu peux continuer.
Ça. D'accord. Maintenant, donc ça, on est déjà vu. Alors maintenant, je vais attaquer un peu les projets changement climatique. Alors, je reprends un peu un schéma de Florian. Alors, là, ce qu'on a, donc, un type d'événement, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on va mobiliser pour avoir des vulnérabilités pour les différents milieux. Donc là, il y en a trois milieux, écologique, économique et social. Alors, après, pour avoir des risques globaux, donc on devrait intégrer la lien donc, entre ces différents risques. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est donc on peut à la fois ou bien appliquer donc, la lien à ces niveaux, c'est-à-dire on prend vulnérabilité écologique, vulnérabilité économique, vulnérabilité sociale. Donc, on ajoute la lien, on fait l'agrégation multicritère, on trouve le risque global. Mais en même temps, pour, on peut également faire intégrer la lien pour chaque vulnérabilité. Et dans ce cas, on va avoir les risques économiques, les risques sociaux et les risques écologiques. Donc là, donc c'est, par exemple, on peut avoir une carte qui peut être utile pour les gens qui font de l'écologie, là pour les gens qui font de l'économie, et là pour les gens qui font de social. Et en même temps, on peut avoir une carte globale donc, pour les gens qui prennent des décisions un peu plus globales. D'accord. Et maintenant, la question qui se pose, où intervient l'analyse multicritère? Donc moi, la partie que je vais attaquer, c'est la partie multicritère. Donc ça peut intervenir, donc là, c'est naturellement là, pour faire l'agrégation des différents risques. Ça peut également intervenir là, puisque pour devenir, par exemple, les vulnérabilités économiques, on a plusieurs autres critères à prendre en compte. Pareil pour la partie économique et pareil pour la partie sociale. Ça c'est ok. Maintenant, le problème du le calcul du risque global, bon, non, ça peut être modélisé sous forme d'un problème de classification multicritère où les objets des décisions sont des différents, par exemple les quartiers ou bien les municipalités, où les critères ce sont les risques partiels, c'est-à-dire écologiques, économiques ou sociaux, où les classes ce sont les échelons d'une échelle de classification, l'échelle des risques. Alors, et donc, dans ces cas, on peut appliquer, par exemple, à la méthode Electri. Alors, ça, c'est le schéma général de la méthode Electri. Donc, ce sont l'ensemble, ce qu'on appelle l'objet des décisions, sont les différents quartiers. Et puis, les critères, ce sont les risques partiels. Alors, ce qu'on va faire, donc, c'est on va évaluer chaque quartier sur les différents risques. On va avoir ce qu'on appelle une matrice d'évaluation. Et après, donc, on va prendre en compte, par exemple, le poids des critères, les échelles de classification, on fait l'affectation, donc on fait tourner une procédure d'affectation pour avoir les risques globaux pour chaque quartier. Alors maintenant, comment on va définir une échelle de classification dans Electri? Là, donc c'est un schéma simple. Donc l'échelle donc, avec trois niveaux, faible, moyen, élevé, donc comment il est défini? Il est défini donc en prenant en compte les différents critères. Par exemple, là, j'ai pris les critères risque économique, risque social et risque écologique. Et là, donc pour définir les classes, il faut définir simplement les frontières. Et pour définir les frontières, on utilise ce qu'on appelle des profils. Ce sont des frontières entre les différents échelons. Alors là, pour avoir trois classes, hein, il suffit de définir deux échelons. Donc, deux échelons. Donc, le profil 1 et profil 3. Donc, les 3 et les 1 sont prédéfinis. Donc, c'est pas nécessaire de définir ces différents profils. Puisque toutes les. Après, on va voir comment on va comparer les actions par rapport aux différentes profils. Donc, par définition, une action, elle doit être ou bien, elle est au minimum appartient à cette classe-là. Donc, elle doit être séparée égale à cette profil ou bien au maximum à cette classe-là. Donc, elle doit être inférieure égale à cette profil. Alors maintenant, comment on va affecter un objet à une classe donnée? Alors il y en a deux conditions. D'abord, donc, il faut qu'une majorité suffisante des critères soit favorable pour l'affectation hein, de cette action, de cet objet à la classe. Et en même temps, il faut qu'il n'existe pas une opposition très importante hein, des autres critères. Alors la première condition est quantifiée par ce qu'on appelle l'indice de concordance globale, donc je ne donne pas la remise parce qu'elle est un peu compliquée. Et puis il y a la deuxième condition est quantifiée par la condition est quantifiée par l'indice de discordance globale. Là donc ce sont les critères qui sont pour et là les critères qui sont contre. Donc ces deux valeurs sont entre 0 et 1. Alors maintenant, comment on va affecter les objets aux différentes classes? Alors là, il y en a deux procédures. Il y en a ce qu'on appelle la procédure optimiste, il y en a la procédure pessimiste. Donc la différence, ce qui est pour la procédure optimiste, on commence à comparer les objets en commençant par la classe la plus faible et en remontant, donc t égale 1 jusqu'à p, et on va affecter l'objet à la première classe tel que x, tel que l'objet il est préféré au profil de cette classe. Donc le terme est préféré, donc il est implémenté par ces deux formules. D'abord, il faut que la concordance globale, donc le produit des concordances globales avec les concordances discordance globale, c'est pré-égal à une valeur lambda qu'on appelle seuil du coup qui varie entre 0,5 et 1, et en même temps il faut que le profil, donc le concordance des profils et l'objet de décision, donc le produit de concordance et discordance de profil par rapport à l'objet de décision est strictement inférieur à lambda, au seuil du coup. Alors la procédure optimiste pessimiste c'est plutôt l'inverse. Donc on commence par la classe la plus élevée, P, et on descend vers la classe la plus, le plus faible. Alors, et on va affecter X à la première classe, à la classe LT, tel que X sur classe, le profil T. Donc, le mot sur classe signifie simplement la première condition, c'est-à-dire, donc, le surclassement est plus large que la préférence. Il suffit que, donc, simplement, la concordance de x par rapport à la profil t, le produit de la concordance globale par rapport au profil t et de discordance globale par rapport au profil t soit supérieur ou égal à lambda. Et je vais revenir un peu sur le schéma précédent. Alors, bon, concernant la procédure d'application pessimiste, donc on commence, on prend l'objet et on compare x par rapport à ce profil. Alors, si x est préféré à cet profil, donc on l'affecte là. Sinon, on va comparer par rapport au profil suivant. Donc on remonte de 0 jusqu'à 3. Maintenant, la procédure pessimiste, c'est plutôt l'inverse. Donc on va comparer x par rapport à cet profil. Donc si x est sur classe cet profil, alors on la classe là. Sinon, on descend vers la profil suivante. Et après, donc, de manière générale, l'affectation, la classe donnée par la procédure optimiste est généralement supérieure ou égale à celle donnée par la procédure pessimiste. Bon. Et là, je vais faire un petit analogie entre les projets primes et les projets de changement climatique. Alors, concernant prime, donc, le point de départ, c'est un événement. Donc, après l'événement, c'est AT0, donc il y aura un risque, et on va calculer le risque global, donc par exemple après 24 heures, et après on va définir quelles sont les mesures nécessaires à prendre. Alors, concernant le projet de changement climatique, c'est plutôt l'objectif, donc la question qu'on pose, quelles sont les mesures nécessaires pour éviter le risque global. Donc comment on fait? Donc il y aura les différents, donc on commence là, il y aura les différents événements, et pour chaque événement, on va calculer un risque pour avoir les risques globaux. Donc maintenant, à partir de ces risques globaux, on va essayer de faire des aménagements, des mesures, donc, pour minimiser les risques globaux. Donc on voyant bien qu'il y a la question, quelles sont les mesures nécessaires. Là, pour le projet changement climatique, donc c'est pour le départ, alors que pour le projet prime, c'est vraiment à la fin. Ouais, je pense que c'est terminé avec ça. Oui. Voilà. Je n'ai pas vraiment donné les détails mathématiques et tout ça, donc c'est pas nécessaire, je pense. Merci. Merci.
Alors, il y a d'autres questions sur la partie changement climatique? J'ai pas de questions, j'ai plutôt un commentaire, mais dans le sens où bon, déjà le projet prime, tu as travaillé combien de temps sur le projet prime?
18 mois, mais les concerts avant que je vienne.
Mais ça veut dire que dans ce cas là il y avait L'événement, c'est quand même un événement à peu près unique, hein, c'est-à-dire comme un incident nucléaire. Dans le cas des changements climatiques, des événements, il y a des inondations, des îlots de chaleur, enfin une multitude d'événements. Hein, on le voit aussi sur ta figure. Les risques se multiplient aussi dans la nature de type de risque. Donc la complexité du... C'est-à-dire si tu transposes les 18 mois que vous avez investis pour essayer de formaliser une mesure du risque nucléaire pour un événement, en se disant qu'il faut démultiplier ça pour plusieurs événements, et probablement qu'il n'y a pas 18 mois non plus, il y en a 12. Comment on peut relever ce défi-là?
Alors, moi, je pense la grande différence... Non, d'abord, pour dire que même pour les projets primes, on peut avoir plusieurs incidents donc, dans la même zone d'étude. Donc, ça ne change rien. La procédure est la même. Mais là, je pense que chaque partie, ça peut être un prime à part.
Parallèle.
Voilà, parallèle, puisqu'on a différents critères. Le principe est toujours le même. Donc, pour calculer, par exemple, le risque de celui-là, on peut appliquer donc, là, une méthode critère pour calculer ce risque-là. Mais le principe, donc, est toujours le même. Donc, évidemment, on va calculer un risque. Alors, si les risques, si les critères donc, sont les mêmes, dans ce cas, on peut combiner les risques à la fois. Sinon, les risques sont très indépendants. On va donc, c'est-à-dire qu'ils ont des critères très différents. Donc, dans ce cas, on va appliquer plusieurs fois la même procédure. Mm-hmm. Donc, la différence principale pour moi, je pense, c'est au niveau des définitions des critères et tout ça. Mm-hmm. Et ça, c'est pour moi la grande différence. Mm-hmm. Bon, une fois on a fait, donc, par exemple, pour le premier risque, ça sera, je ne vais pas dire immédiat, mais le principe est très bien compris. Donc, on peut simplement modifier la partie modélisation, c'est-à-dire la partie définition des critères et tout ça. Mais ce que reste, c'est toujours le même. Puisque là, on va avoir un risque partiel et puis on va combiner. Donc là, la partie multicritère, c'est toujours la même. Ce qui change, donc, c'est au niveau de définition des critères au départ.
Et un autre point aussi qui me semble important et ressortir du projet prime, c'est, et pour l'instant qu'on a, qui n'est pas tellement présente dans le projet sur le changement climatique, c'est le fait, l'importance de définir les échelles au départ, puis d'avoir comme des
voilà.
échelles communes.
Oui.
Et c'est ça qui autorise en fait après le fait de mettre en relation des évaluations qui sont
voilà.
indépendantes
voilà.
a priori. C'est
oui,
ça.
C'est très important. Et un autre aspect, parce que, bon, parce que là, je n'ai pas abordé dans l'exposé la partie discussion entre les différentes personnes et tout ça, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont contre, d'autres sont pour et tout ça. Et ce n'était pas évident, surtout, par exemple, lorsqu'on a appliqué la procédure d'inférence, il y en a des grandes divergences. Ce n'était pas évident hein, d'appliquer la méthode, puisque pour appliquer l'électricité, donc il faut donc une seule valeur pour le poids, par exemple. Alors, dans notre cas, donc, il y en a à chaque décideur, on donne un poids différent et tout ça. Ce n'était pas évident d'avoir un seul poids pour pouvoir appliquer la méthode. Donc il fallait qu'on discute beaucoup pour avoir ces différentes valeurs. Et je pense que c'est pareil pour le projet changement climatique.
Justement, au sujet des échelles, là, vous avez, j'ai bien compris, vous dites que c'était des échelles internationales.
L'échelle globale, c'est international.
C'est quoi?
C'est-à-dire, comme il y a généralement 6 niveaux.
Ouais.
Donc, j'oublie.
C'est une échelle reconnue par plusieurs pays.
En plus, c'est l'URSS, en fait, c'est une institution internationale. Il a développé beaucoup de méthodologies qui sont utilisées un peu partout. Et parmi ce qu'elle a développé, c'est des échelles de mesure. Et il y a également ce qu'on appelle les normes, puisque là, pour l'échelle globale, mais il y a également des échelles par radionucléide. Il y en a différentes normes, de valeurs frontières, qui, en fait, il y a une grande différence entre, par exemple, les normes françaises et celles utilisées en Russie, par exemple. Puisque les niveaux, par exemple...
Il faut que vous décidiez quoi mettre dans chaque niveau. Vous avez les niveaux en partant, mais... sont définis de façon très large, j'imagine. Quand vous êtes...
Des experts qui vraiment connaissent le pro, ils disent par exemple, si je prends les radionucléides, le césium par exemple, à partir de telle valeur sur des dépôts, donc ça va être dangereux pour l'être humain. Donc par exemple, ils disent, je pense qu'ils disent quelque chose comme ça. Si on arrive à 20, c'est très dangereux, ainsi de suite. Donc ces différentes valeurs, ce sont des experts dans le domaine qui donnent ces valeurs-là. Il y en a des modèles prédéfinis qui sont utilisés un peu partout. et on introduit les données et ils calculent donc ces différentes valeurs. Mais ce sont des normes prédéfinies.
Les seuils de radiation à partir
voilà.
De
quel, oui.
Là, le débat qu'il y a justement au sujet du Japon entre les on
est voilà.
À 4 ou à 6, là, c'est, est-ce que c'est lié au genre de truc
oui. Bon. Moi, je connais un peu les normes françaises, elles sont très, très strictes. C'est-à-dire, il suffit d'avoir vraiment une petite valeur, donc c'est, on passe au niveau suivant, au niveau des gravités suivants. Par exemple, les normes russes sont un peu plus flexibles. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, 10, ils passent jusqu'à 15, jusqu'à 20. D'accord. Et ça dépend donc du pays, tout ça.
Une autre question. Si ce n'est pas le cas, on va remercier Salem. Merci beaucoup.